Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Les élèves sont-ils tous égaux face à l'enseignement des sciences en général et des maths en particulier? Selon une étude internationale récente, les élèves de notre pays semblent de moins en moins doués pour les matières scientifiques que leurs camarades du monde entier. Comment expliquer ce problème profond et comment expliquer les inégalités entre les filles et les garçons, entre les jeunes issus des quartiers populaires et ceux des zones privilégiées, alors que les matières scientifiques sont réputées plus égalitaires que le français, l'anglais ou l'histoire-géographie? Pourquoi au fil de leurs études, les filles disparaissent des filières scientifiques? Pourquoi les élèves des milieux populaires furent moins nombreux que les enfants de cadre à passer un bac scientifique? À force de répéter qu'il existe une bosse des maths, que certaines catégories d'élèves ne sont pas faits ou n'ont pas le goût des maths, il y a des chances d'assister à ce que l'on appelle une prophétie autoréalisatrice. On vous expliquera ça au cours de l'émission. Nous verrons ce matin comment agir concrètement pour l'égalité dans les matières scientifiques. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000 ou à nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Marie-Pierre Arnaud.
Bonjour Ali Rémy.
Bienvenue dans l'émission, chroniqueuse dans l'émission Les Maternelles sur France 2. Vous remplacez cette semaine Gwenaëlle Boulet. Ma vie de parent, c'est la chronique consacrée à la parentalité et à la famille. Tous les mercredis vers 10h40, quel est le menu?
Écoutez, produits scalaires, intégrales, fractions et parents.
Oh là là, ça promet. À tout à l'heure Marie-Pierre Arnaud. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Alors comme ça, vous êtes calculatrice à la NASA. On laisse les femmes se charger de toutes ces... Enfin, je me suis mal fait comprendre.
Faites-vous bien comprendre?
Eh bien, je suis surpris que des missions aussi exténuantes.
Oh, Monsieur Johnson, vous l'ignorez sans doute, mais il se trouve que j'ai été la première doctorante noire de l'Université de Virginie-Occidentale. Tous les jours de la semaine, j'analyse les relevés manométriques pour l'aérodynamique, le frottement et la vélocité. J'effectue plus de 10 000 opérations de calcul à la main. Alors oui, on confie des missions aux femmes à la NASA, Monsieur Johnson. Non pas parce que nous portons des jupes, mais parce que nous chaussons des lunettes.
Extrait du film Les Figures de l'Ombre, et on vient d'entendre la génie mathématicienne noire Catherine Johnson à la NASA dans les années 1960, qui a surmonté bien des obstacles dans un monde masculin et blanc. Et pour évoquer les inégalités en sciences ce matin, trois femmes. Bonjour Clémence Perronnet.
Bonjour.
Docteur en sociologie, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à l'Université catholique de l'Ouest, et vous venez de publier un essai passionnant chez Autrement, La bosse des maths n'existe pas, sous-titré Rétablir l'égalité des chances dans les matières scientifiques. Alors vous avez observé pendant 4 années des enfants et leurs familles entre la classe de CM1 et la 5e, c'est ça ?
J'ai observé les enfants.
Ouais.
J'ai eu la chance de les observer pendant qu'ils faisaient des ateliers scientifiques qui leur étaient proposés dans le cadre scolaire, mais par des médiateurs et des médiatrices de sciences qui, eux, n'étaient pas des enseignants. Alors, j'ai pas eu la chance d'observer leur famille, mais j'ai rencontré une dizaine de parents. Et donc, les enfants observés, il y en avait plus d'une centaine. Et 50 d'entre eux, je les ai aussi interviewés. Deux fois en tête à tête, une fois en CM2 et une deuxième fois en cinquième.
Bonjour Laure Cornu.
Bonjour.
Vous êtes médiatrice en sciences, en mathématiques au sein du département de maths du Palais de la Découverte. Qu'est-ce qu'une médiatrice en maths? Est-ce que le nul en maths que je fus aurait pu y participer? Et pourrait y participer aujourd'hui?
Alors, rassurez-vous, on a beaucoup de nuls en maths qui participent à nos ateliers et on les accueille convenablement. On a un public assez large. Alors, vous savez qu'on va pas se mentir, le public qui vient voir une médiation de maths un dimanche, par exemple, c'est souvent un public acquis, mais on a aussi la chance d'avoir des publics scolaires pendant tout le reste de l'année, pendant les vacances. Et donc, en médiation, on fait soit des sortes de mini-cours qu'on appelle des conférences sur un sujet particulier. Et l'idée derrière, c'est vraiment d'éveiller des intérêts, de susciter voilà des vocations, donner des pépites, ou des ateliers. Et donc on manipule avec des élèves ou avec des familles, et donc on peut observer les enfants avec leurs parents, ce qui est une source précieuse d'informations.
Bonjour Stella Baruc.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes mathématicienne, chercheuse en pédagogie des mathématiques. Toute votre vie, vous avez lutté contre l'échec scolaire en mathématiques. Vous avez notamment publié un dictionnaire des mathématiques, de mathématiques élémentaires. Et L'âge du capitaine reste votre ouvrage le plus fameux. Est-ce qu'être une femme fut un obstacle lors de vos études en mathématiques, Stella Baruc?
Écoutez, non. À l'époque où je les ai faites, mes études, c'était un privilège, en effet, mais nous étions tout à fait chouchoutés, célébrés par nos profs de maths qui nous ont fait en première puis en mathélème à nous diriger vers les mathématiques que nous avons fait. Je dis nous, parce que nous étions trois filles en classe de première à être bonnes en maths. Ça fait pas beaucoup.
Ça fait pas beaucoup.
Mais voilà. Donc ça s'est fait comme ça.
C'était dans les années, parce que vous êtes né la même année que Dupondé et Duponté. Hein. Je laisse les auditeurs faire le calcul. Vous êtes né en... Allez, je ne vais pas dire votre âge, mais
loin,
en fait,
c'était loin.
Voilà, mais en fait...
Donc, il y avait ça. Il y avait un préjugé très favorable sur les mathématiques et se distinguait celle qui était bonne en maths par rapport aux garçons qui... Comme le décrit Clémence Perronnet, avait d'emblée un préjugé favorable pour pouvoir être bon en maths. Voilà. C'est peut-être notre côté supposé exceptionnel qui a fait le côté, comment dirais-je, extrêmement privilégié de notre carrière entre guillemets en maths.
Ça reste des exceptions, Clémence Perronnet, les parcours de Stella Baruc.
Oui, malheureusement, encore aujourd'hui, il y en a, évidemment, il y en a qui réussissent brillamment, mais je trouve que c'était intéressant de dire la dimension exceptionnelle et géniale qu'il faut pour être une femme et réussir, là où c'est, au moins au début des parcours, plutôt normal pour des garçons d'y arriver. On a une tendance qui se maintient depuis des décennies, en fait, surtout en maths et en mathématiques fondamentales. Donc, on voit d'amélioration pour la part des femmes en maths et en maths fondamentales. Au contraire, pour les plus hauts postes à l'université, pour les professeurs de mathématiques, chaque année, on en perd un petit peu. Donc, pour l'instant, le problème est loin d'être résolu.
Alors, Clémence Perronnet, vous battez en brèche une idée qu'il existerait une bosse des maths ou que l'on serait nul en maths par nature. La bosse des maths n'existe pas, mais vous y avez longtemps cru.
Oui, tout à fait. C'était quelque chose qui me semblait évident. Alors, la bosse des maths, mais la bosse, en fait, de toutes les autres matières, cette idée qu'on n'a pas trop le choix de ce en quoi on est bon ou bonne ou ce en quoi on a des difficultés. Moi, j'y ai cru, je pense, comme tout et toutes les élèves à l'école, quoi. J'y arrive, j'y arrive pas, j'y peux rien, c'est pas de ma faute et j'ai beau faire tous les efforts, de toute façon, sur ce sujet-là, je bloque. Donc, j'y ai cru pendant très longtemps et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai mis ce titre-là en avant pour cesser de croire en la nature de nos compétences.
Et il est difficile donc de se débarrasser de ce genre de mythe. Un autre mythe voudrait que le cerveau des femmes soit davantage fait pour le langage que pour se repérer dans l'espace. C'est encore ce que vous appelez un neuromythe.
Oui, c'est-à-dire ces énoncés qu'on croit scientifiques, qui ont l'apparence d'être scientifiques et qui en fait ne reposent pas sur des preuves ou des résultats scientifiques. Et celui-là, il a vraiment la vie dure, qui a une différence entre, on va dire, les cerveaux roses et les cerveaux bleus. Le coup du repérage dans l'espace, on l'a tous entendu. Je crois qu'on a tous entendu un jour ou l'autre. Les filles sont moins bonnes pour la rotation spatiale, repérer les formes en 3D qui se déplacent. Et ça n'est pas vrai. En fait, on a eu dans les années 1950 des études qui, comparant filles et garçons, disaient que les filles y arrivaient moins bien. Mais dès les années 70, c'est-à-dire comme par hasard, à partir du moment où des pays comme les États-Unis ou la France ont harmonisé leurs programmes scolaires, les différences de compétences ont disparu. Donc, ce qui nous montre qu'on ne mesurait pas des natures différentes des cerveaux, mais en fait des entraînements différents des enfants dès leur plus jeune âge.
Leur cornu.
Oui, je trouve ça très intéressant d'entendre ça. En fait, je suis surprise qu'on n'ait pas pensé à faire des études en comparant des cerveaux entraînés de la même manière. Ça me semble être le premier biais à écarter lorsqu'on fait ce type d'études. Mais j'avais entendu parler d'une étude aussi qui parlait d'une épreuve qui avait été passée par des filles et des garçons, une épreuve de géométrie qu'on présentait comme une épreuve de dessin ou bien une épreuve de mathématiques. Et dans le cas où c'était une épreuve de dessin, les filles réussissaient mieux. Et dans le cas où c'était une épreuve de mathématiques, les garçons réussissaient mieux. Alors que c'était exactement le même problème dans les deux cas.
On reviendra sur cette étude fameuse tout à l'heure. Stella Baruc.
Oui, écoutez, je vous ai parlé du côté exceptionnel étant donné l'époque et étant donné la population du, si je veux dire, du lycée français de Beyrouth. Mais des années après, des décennies après, après tout un certain nombre de travaux que j'ai faits, évidemment, à partir de l'échec et maths, la question m'a été posée, mais de manière incroyablement répétitive, partout où j'intervenais, est-ce que les filles et les garçons comprennent les mathématiques de la même façon ? À un point tel que, bon, au début, je répondais, c'est un faux problème, on ne répond pas, on ne cherche pas de solution à un faux problème. Et puis, quand même, devant la constance des interrogations de ce genre, je me suis dit qu'il fallait réagir, et j'ai cherché un petit peu, et j'ai trouvé des choses assez merveilleuses, en effet, qui vont dans le sens de ce que révèle Clémence Perronnet dans son livre. Et j'ai un petit cadeau à lui faire. C'est une déclaration de Proudhon. Vous savez, le Proudhon du « la propriété, c'est le vol ». Eh bien, une femme qui exerce son intelligence devient laide, folle et guenon. Tout simplement.
Bon. Ben, merci bien,
beaucoup. Il y a une autre chose qui est assez merveilleuse parce qu'à ce moment-là, elle est calibrée. Le rapport homme-femme sur toutes sortes de considérations qui sont comme par exemple le travail, la science et la justice, eh bien, le rapport homme-femme est de 3 à 2. Mmh. Alors, si vous comptabilisez ce qui se passe quand quelqu'un s'occupe à la fois de travail, de science et de justice, eh bien, les hommes, ils vont. Le rapport devient de 27. 8, c'est-à-dire qu'une femme vaut les 3/10 de ce que vaut l'homme. Mmh. Bon, ça c'est tellement caricatural, et ce que je trouve de remarquable dans le livre de Clémence Perronnet, c'est qu'en effet, elle apporte des chiffres, et elle amène des cas particuliers, il y a des visages d'enfants, il y a des destins d'enfants, et ça m'a beaucoup touchée, parce que ça rejoint tout à fait l'expérience que j'en ai.
Alors, des études internationales récentes montrent que les jeunes élèves français sont moins bons en sciences, en maths notamment, que leurs camarades européens ou du monde entier. C'est un phénomène relativement inquiétant, car cela dépasse les frontières de l'école. Si les jeunes se désintéressent de la science, il y aura à terme un impact sur l'innovation scientifique et technologique de notre pays. Alors, Clémence Perronnet, quel est le discours dominant sur ce grand malentendu entre les jeunes et les sciences?
Bah, vous l'avez bien retranscrit, c'est cette idée que les jeunes maintenant sont moins bons, qui seraient moins compétents, qui sont moins intéressés, donc ils auraient perdu la flamme, le goût des maths et des sciences. Et derrière, souvent, il y a quand même un peu l'idée que ce serait la faute des profs. Donc, on a tout ça, et il y a aussi comme explication le fait qu'il y a un malentendu entre les élèves, leur famille d'un côté, et puis les sciences, les maths de l'autre, et qu'en fait, les sciences et les maths seraient accueillantes, seraient disponibles, seraient là pour tous, et accessibles de façon parfaitement égalitaire. Et que de l'autre côté, on aurait des filles, mais aussi des jeunes ou des familles défavorisées ou de certains milieux qui ne comprendraient pas, qui ne verraient pas cette beauté ou cet accueil ou cette ouverture qui leur serait offerte et qui donc, en fait, n'arriveraient pas à dépasser des obstacles qui seraient en eux. Et ça, pour moi, c'est le mauvais diagnostic, en fait. C'est l'erreur à ne pas faire. Parce qu'on remet la responsabilité sur celles et ceux qui, en fait, sont exclus des maths et des filières scientifiques. On dit c'est eux qui comprennent pas bien, c'est eux qui n'ont pas l'intérêt, c'est eux qui ne sont pas capables de voir ce qui leur est offert. Alors qu'au final, il faut renverser le regard pour comprendre ce qui, dans la façon dont on enseigne et dont on transmet les sciences et les maths, en fait, exclut activement, donc, et les filles, et les personnes issues des classes populaires, mais aussi les personnes issues des minorités dans les pays où elles se trouvent. Donc il y a des choses qui empêchent d'aller vers les maths et les sciences. Donc c'est pas que les jeunes ne veulent pas ou ne s'y intéressent pas. Et pour moi même le problème de ils sont moins bons, c'est une fausse panique en fait. On se focalise là-dessus sur une baisse de X points. Moi je trouve que ce qui est le plus intéressant dans ces études internationales, c'est le lien entre les scores en mathématiques et le milieu socio-économique. Qui est en France un des plus forts des pays de l'OCDE. C'est-à-dire qu'en France, plus on vient d'un milieu social économique défavorisé, donc pour le dire vite, plus on vient d'une famille pauvre, moins on est bon en maths. C'est quand même un lien qui est hallucinant. Et c'est en France, dans tous ces pays-là, qu'il est le plus fort.
L'or cornu?
Oui, alors, bon, ça me fait penser forcément à mes ateliers mathématiques où j'observe des familles, en fait. Et je remarque que les familles dans lesquelles les enfants réussissent le mieux, ce sont les familles dans lesquelles les parents sont impliqués. Si les parents viennent et voient un intérêt à l'atelier, ils vont faire leur propre casse-tête, en gros, on peut simplifier ça comme ça, puis les enfants à côté vont faire le leur. Ils seront tranquilles, ils verront que c'est quelque chose de chouette, et puis ils auront toute la liberté pour penser. Alors que parfois, enfin là, quand ça se passe mal, c'est quand il y a des attentes des parents envers les enfants. Quand les parents viennent pour regarder leurs enfants. Alors, bien sûr, si jamais c'est parce qu'ils ont un a priori négatif, c'est catastrophique. Et dans ces cas-là, ils viennent pas à l'atelier. Mais même quand ils sont a priori très positifs, on a parfois des familles qui viennent nous présenter leur génie. Et donc, leur génie n'arrive pas à faire de maths parce qu'en fait, il est pas concentré à ce qu'il fait. Il a simplement envie de réussir, de montrer qu'il sait. Et là, on est dans une espèce de brouillard émotionnel qui fait qu'on n'est pas disponible pour faire des maths. Et ce brouillard émotionnel, je l'entends aussi lorsqu'il y a des gens qui me disent « Moi, j'ai été traumatisée. Par exemple, j'étais incapable de faire du calcul mental. Les chiffres s'effaçaient. » Là, ce sont des personnes qui sont dans une petite panique et qui ratent une marche. Et si elles sont accompagnées dans une famille dans laquelle on entend qu'elles ont raté une marche et on peut leur réexpliquer tranquillement, on sait que dans cette famille-là, on rate pas ces marches-là, et ben on va pas les rater.
Qui sont précisément les publics qui assistent à vos ateliers?
Alors,
en faisant de la sociologie au doigt mouillé.
Au doigt mouillé. Le Palais de la Découverte est en bas des Champs-Élysées. Donc, on a quand même forcément un public qui est assez local, donc plutôt favorisé. C'est pas le même public qu'à la Cité des Sciences. J'ai aussi été médiatrice à la Cité des Sciences et on n'a pas le même public.
La Cité des Sciences, pour ceux qui ne vivent pas Paris, dans le nord-est parisien, est plutôt populaire.
Voilà,
sociologie
ça, voilà.
Plus populaire que du côté du Palais de la Découverte.
Voilà, beaucoup plus populaire. Et puis la Cité des Sciences, qui est aussi le grand musée scientifique que parfois des touristes viennent visiter. Ça fait partie du tour de Paris avec des enfants. On visite la Cité des Sciences. Le Palais de la Découverte, c'est plus des traditions familiales. On a un public d'habitués, des grands-parents qui venaient en temps. Quand ils étaient petits, parce que ça existe depuis très longtemps, depuis 1937, et qui décident de faire découvrir ça à leurs petits-enfants. On a des habitués qui viennent régulièrement plusieurs fois par an. Voilà à peu près le public qu'on a.
Clémence Perronnet.
Oui, je voulais rebondir sur ce que disait ma collègue sur le Palais de la Découverte. J'y étais récemment et je trouve que c'est un très bon exemple pour expérimenter ce qu'on appelle la violence symbolique des lieux de culture. On arrive, alors c'est effectivement sur autour des Champs-Élysées, donc déjà tous les lampadaires sont dorés, ce qui fait très bizarre. Et j'ai été invitée moi dans ce lieu. Alors déjà j'ai pas trouvé la porte parce que c'était un petit peu compliqué. Et je me souviens d'être entrée dans un endroit où en arrivant dans le vestibule, on se sentait écrasé. Il y avait des dorures, il y avait des moulures. C'était un endroit. Alors, moi, avec mes X années d'études, je me suis dit, oh, tu peux pas rester là, faut que tu sortes, t'es pas censé être là. Et c'est vraiment de l'imposition, en fait. On se rend pas compte à quel point ces lieux-là, quand on en a pas l'habitude, ils font peur, ils sont impressionnants, on s'y sent pas à sa place. Et aussi pour rebondir sur ce que disait Stella Baruch sur les enfants dans ce livre, moi j'apprécie qu'elle le remarque, parce que pour moi c'est le plus important, c'est d'incarner ces inégalités devant les sciences dans des personnes qui existent vraiment, alors que qui sont maintenant un petit peu des fictions, parce que j'ai écrit sur eux et sur elles. Et moi je les imagine tout le temps. À chaque fois qu'on me demande comme ça de travailler sur les inégalités en sciences, j'imagine alors une en particulier qui s'appelle, que j'ai rappelée, Ramata. Et là je me suis dit, quand on est Ramata, qu'on a 10 ans, qu'on vient d'une banlieue, si on arrive au Palais de la Découverte avec toutes ces dorures, avec toutes ces moulures. En fait, on se dit pas « Ah, c'est super, c'est joli, je suis accueillie ». On se dit « Je suis pas censée être là ». Et ça, c'est des sentiments forts. Je suis ressortie quand ça m'est arrivé, qu'on n'ose pas forcément avouer, mais qui joue sur... ça montre cette exclusion de la culture et ici de la culture scientifique.
Et vous parlez de violence symbolique pour parler comme Pierre Bourdieu, comme le sociologue Pierre Bourdieu. C'est la Baruch, votre regard.
Oui. Il y a évidemment beaucoup à dire pour tout ça. Ce que je voulais essayer de... imaginons que toutes les difficultés d'accès, puisqu'il est question de classe populaire, de genre et de milieu ethnoracisé, si j'ai bien lu Clémence Perronnet, qui sont autant d'obstacles à la possibilité de bénéficier ou de comprendre les sciences, ce qui vous est offert, etc. Essayons d'imaginer l'hypothèse où tout ça est, entre guillemets, arrangé. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quel que soit le public auquel on aura affaire, il va passer de la numération à l'école au produit scalaire dont il était question tout à l'heure. Bon, donc là, il y aura une relative ou presque véritable égalité de tout le monde, c'est que ils auront quelque chose face à eux dans un tableau, sur un tableau, et ce qui va leur entrer dans les yeux et les oreilles, ce sera la même chose. Donc, il me semble que ce qu'il y a à interroger ou parallèlement ou presque antérieurement à toutes ces questions de genre, de milieu, etc., c'est qu'est-ce qui est donné aux enfants à comprendre. Ce qui est très intéressant, c'est que elle est donnée le ce parcours que je remarque tellement, c'est que tout est possible au CP, et arrivé en sixième, il s'est accumulé un tel nombre de petites choses, parfois pas comprises par les enfants, que ça finit par fabriquer un écran vraiment très difficile à ce moment-là à traverser. Donc c'est en fin de son livre qu'il est question de ce rapport au savoir qui me paraît quelque chose de fondamental à examiner. C'est quoi la matière qui est proposée aux enfants? Quand je vois ce que me demandent les enseignants quand j'ai à faire des interventions, c'est du basique. C'est écrire les nombres. C'est quoi une fraction? Et c'est quoi une équation? Etc. Je termine en disant que dans la dernière expérience qui a été faite, un petit peu selon les idées que je propose, c'est dans Paris 14e. Alors, la première, c'était en REP+, c'est-à-dire des enfants que connaît bien Clément Ferlet, très bien. Eh bien, on peut dire qu'une certaine façon de procéder, je sais, il n'y a pas de miracle, mais qu'une certaine façon de procéder que les enseignants mettaient en jeu, avec un certain comportement vis-à-vis des enfants, en particulier l'erreur, ce travail fondateur et fondamental à faire avec les enfants. L'erreur, c'est la normalité même. Tout le monde peut parler et tout le monde parle et tout le monde est en confiance. Ce n'est pas la confiance de l'institution, l'école de la confiance, parce que ça, c'est un petit peu artificiel. La confiance, elle se fait d'elle-même. Et quand une équipe d'enseignants travaille de cette façon-là, eh bien, les différences s'effacent.
Merci voilà. Pour votre éclairage, Stella Barouk. On vous retrouve évidemment juste après le disque. On continue à s'intéresser aux inégalités dans les matières scientifiques, juste après avoir écouté Calypso Rose.
hanging on. They say that I've been waiting too long, forgetting that the Constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making blood to take the meaning.
Calypso Rose, interprété Calypso Queen.
On peut obtenir quelque chose avec rien.
Grand bien vous fasse.
En le multipliant.
Ali Rebéi.
Une fois rien, c'est rien. Bon. Mais trois fois rien. Pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose, n'est-ce pas ?
Sur France Inter.
J'aurais bien aimé avoir un prof de maths à la Raymond DeVos. 10h34, comment réduire les inégalités dans les matières scientifiques, c'est notre thème ce matin. Vous pouvez poser vos questions et témoigner au 01 45 24 7000.
7, 10, 2,5, 13.
Wow. Bref, les gens nuls en maths, ils sont toujours nuls en maths.
Non, bah franchement, oui, ça va.
C'est une fatalité d'être nul en maths, tu peux pas l'attraper.
C'est la destinée d'être nul en maths.
Moi, je trouve que tout le monde met trop tout le temps la pression sur les maths. Les parents, ils disent, ouais, il faut que tu fasses des maths et tout ça. Et du coup, les élèves, quand ils commencent à pas comprendre un truc, ils se disent qu'ils sont nuls en maths. Et du coup, après, ils se mettent la pression, ils font des blocages et après, ils lâchent, quoi. Ils lâchent carrément.
Extrait du documentaire « Comment j'ai détesté les maths » d'Olivier Perron. Clémence Perronnet, je rappelle que vous publiez « La bosse des maths n'existe pas ». C'est une fatalité d'être nul en maths. C'est une idée très tenace, ça.
Alors, c'est certainement pas une fatalité, mais c'est vrai que les phénomènes d'exclusion et d'inégalité sont tellement forts qu'on a l'impression que c'est la fatalité. Et ça, c'est dur de s'en détacher.
Alors, les sciences sont réputées neutres. Elles sont censées favoriser l'ascenseur social. Et pour vous, c'est une idée fausse qui reste très tenace. Je cite juste une étude que vous expliquez dans votre livre. En 2018, deux sociologues ont montré que ce sont les matières scientifiques et non les disciplines littéraires qui creusaient l'écart les plus importants entre les enfants d'ingénieurs et les boursiers lors du passage du concours de l'école polytechnique L'X pour les intimes.
Oui, une étude passionnante de mes collègues Pierre-François et Nicolas Bercouc. Ils se sont attaqués à quelque chose qui est vraiment un mythe tenace chez tous les gens qui côtoient de près ou de loin des scientifiques, qui serait que quand on passe les concours des grandes écoles, en fait, ce sont les matières scientifiques et typiquement les maths qui discriminent, qui font qu'on entre ou on n'entre pas. Et eux, ils ont montré qu'en fait, ce qui faisait la différence entre, alors pour aller vite, les candidats qui étaient issus des grandes classes préparatoires et principalement de Paris, et ceux qui venaient de classes préparatoires plus modestes, de province, et qui avaient des origines sociales plus modestes, ce qui différenciait et ce qui faisait la réussite ou l'échec, c'était pas les matières littéraires, l'anglais, le français, c'était ces matières jugées neutres, en fait, la physique, les maths et les disciplines d'ingénierie. Et ce qui est intéressant, c'est la réception qu'a eue leur étude. Parce
très
que
mauvaise.
Tout le monde leur a dit non. Tout le monde leur a dit non, c'est pas vrai. Tout le monde est égaux devant les maths. On fait les mêmes maths dans la grande prépa et la petite prépa. Comment pourrait-il y avoir une différence? Ils ont été, eux, observer les programmes. Ils ont montré qu'on fait pas les mêmes maths dans la grande prépa et dans la petite prépa, comme on fait pas les mêmes maths en REP+ et ailleurs. Bien évidemment, ce ne sont pas les maths dont parlait Stella Baruch tout à l'heure qui changent, c'est la présentation des savoirs, les savoirs qu'on sélectionne et puis tout ce qu'il y a autour. Et je trouve que c'est intéressant par rapport à ce qu'elle disait tout à l'heure de faire la différence entre la notion mathématique en elle-même, donc elle parlait beaucoup de produits scalaires, et puis tout l'emballage qu'il y a, par exemple, dans les manuels, dans les énoncés des exercices. Et c'est dans cet emballage qu'il y a les processus d'exclusion. Alors, pour vous donner un exemple tout simple, c'est un manuel de maths où arrive le chapitre sur les complexes, concept de mathématiques, on va l'illustrer par une page de garde avec une femme blonde qui se regarde dans une glace et qui dit « Ah, j'ai des complexes !» Et là, vous comprenez que vous n'êtes pas... Quand vous êtes une fille, vous comprenez que c'est la seule fille qui est dans le manuel, c'est pas un génie des maths, c'est pas une grande scientifique, c'est une blonde qui a des complexes. Et tout ça, accumulé, vous permet de comprendre que le manuel ne s'adresse pas à vous, et finalement la notion derrière passe à la trappe.
Est-il vrai que 41% des enfants de cadre ont fait un bac scientifique contre 10% des enfants d'ouvriers? C'est un chiffre officiel publié en 2013.
Oui, ce sont des chiffres très peu connus, mais que moi je trouve très surprenant. J'avais pas conscience de l'écart, de cette inégalité-là, et en fait de la faible part des enfants issus de milieux ouvriers et employés qui accèdent au bac S. Comparé à aux enfants de cadre, aux enfants d'enseignants aussi, qui sont très nombreux à faire des bacs S, ça remet complètement en cause cette idée que même les sociologues ont, que les maths, les sciences, l'ingénierie sont des filières qui accueillent à bras ouverts, y compris les enfants qui n'ont pas alors, ce que Bourdieu appelle le capital culturel et qu'on associe souvent à la culture de la famille, mais culture qu'on juge littéraire, artistique, historique. On s'imagine pas qu'il y a aussi une part scientifique des cultures des familles.
Alors en 2017, on retrouvait 47% de filles en bac scientifique. Est-ce qu'on les retrouve après dans les filières scientifiques universitaires, dans les IUT, dans les écoles d'ingénieurs, dans les facs de maths, de physique, ou est-ce qu'elles abandonnent assez massivement ces études-là ?
Elles disparaissent petit à petit. Donc les filles tiennent mieux que les enfants, enfin arrivent mieux que les enfants des classes populaires jusqu'au bac, mais elles sont pas sorties d'affaires pour autant. C'est à peu près paritaire en bac S. Mais ensuite, il y a ce qu'on appelle le phénomène du tuyau percé. Donc comme s'il y avait un tuyau qui allait du bac S aux plus grandes carrières et filières scientifiques ensuite. Et là, le tuyau est percé, c'est-à-dire que petit à petit, les filles disparaissent, comme si elles s'échappaient par les trous du tuyau. Alors bon, c'est une métaphore qui a des limites, parce que là, c'est comme si ça se passait par magie. En réalité, petit à petit, on a de moins en moins de filles. Donc après le bac, il y a d'abord la barrière des classes préparatoires, qui sont les filières les plus prestigieuses.
Et donc pourquoi là, on retrouve plus de garçons en classe prépa scientifique, dans les formations universitaires, en informatique ou en physique? C'est pas parce que la junte masculine est par essence meilleure que les filles?
Non, certainement pas. Et en plus, les résultats à ce stade-là sont plutôt en faveur des filles. Donc par exemple, les résultats du bac S, les filles sont un petit peu meilleures. Donc si on jugeait uniquement leur dossier, elles devraient être aussi nombreuses, voire plus nombreuses en classe prépa. Mais là, il y a le fait qu'il faut oser s'y inscrire, oser se dire « moi, je vais aller faire une classe prépa scientifique, physique, maths, ingénierie ». Et là, on a des phénomènes qu'on connaît bien en sociologie de l'éducation, qui sont qu'à note égale, à résultat égaux, la perception de soi-même n'est pas du tout la même. Une fille qui a 17 en maths va pouvoir se dire « bon, j'ai 17, mais en fait, c'est parce que je fais énormément d'efforts, j'ai aucune capacité à l'origine, j'ai tellement fait d'efforts que j'y arrive, mais l'année prochaine, j'y arriverai plus ». À l'inverse, un garçon qui va avoir peut-être de moins bonnes notes, 14, 15, va se dire « oui, j'ai encore de la marge, si je vais en classe prépa scientifique, je vais pouvoir développer ces compétences-là ». Et donc là, on est sur un assemblage de les jeunes, les parents, les professeurs, qui peuvent décourager vraiment les inscriptions des filles dans ces filières-là.
Votre regard, Laure Cornu, je rappelle que vous êtes médiatrice en maths au Palais de la Découverte à Paris.
Oui, bah j'entends ça. Je suis pas très surprise, malheureusement. Je me suis posé la question. Donc nous, les classes, on les voit qu'une fois. Donc est-ce que les filles participaient plus que les garçons, par exemple? Et puis je me suis rendu compte, effectivement, non. C'est rare d'avoir une fille qui intervient. Quand elles interviennent, c'est pour donner une réponse dont elles sont sûres. C'est quand elles veulent aider, parce que j'ai posé une question, personne répond, elles viennent m'aider en m'apportant la réponse, tandis que les garçons, ils se permettent de participer pour donner un avis, ils se permettent de se tromper devant la classe, ce qui est encore plus fort quand je les fais intervenir. Par exemple, pour un atelier, enfin pour un exposé qui s'appelle Les jeux aux maths, et où on fait un jeu stratégique au tableau, et donc on va essayer de deviner ensemble petit à petit quelle est la stratégie gagnante. Mais il me faut des joueurs, il faut que les gens viennent au tableau pour jouer, pour se prêter à l'exercice et pour se tromper. Ce sont les garçons qui viennent en premier, et c'est pas forcément les bons en maths qui viennent, alors que les filles qui viennent au tableau, ce sont les bonnes en maths.
Et si, je vous interromps, pardonnez-moi, si les inégalités face aux matières scientifiques étaient une affaire de goût? Clémence Perronnet, vous citez une enquête internationale appelée Rose, menée dans 44 pays auprès de jeunes de 15 ans, qui montre que les filles sont plus négatives et sceptiques vis-à-vis des sciences que les garçons, surtout dans les pays occidentaux.
Oui, alors il y a deux choses très intéressantes à dire là-dessus. D'abord, c'est quelque chose qui revient très souvent. Oui, mais elles aiment moins ça. On va quand même pas les forcer. Ce qui est vrai, le but est de forcer personne à faire des sciences, parce qu'il y a aussi plein d'autres domaines qui sont intéressants et auxquels on peut se consacrer. Mais il y a quand même des choses à dire là-dessus. D'abord, le fait que les filles aiment moins les sciences, se disent moins intéressées, trouvent ça moins passionnant, ça arrive assez tard. C'est pas du tout quelque chose qu'on a chez les petites filles de 6 ans, c'est quelque chose qu'on observe, là c'est sur les jeunes de 15 ans par exemple dans cette enquête. Donc à 6 ans on n'a pas ça, à 15 ans on l'a. Donc déjà il y a quelque chose qui est acquis à un moment, donc c'est le moment de l'enquête à peu près à la charnière école primaire collège pour la France. Il y a ce décrochage là qui est intéressant. Et puis après il faut quand même se dire qu'est-ce que c'est le goût? Parce que souvent derrière le goût on dit bah hop, on revient sur la nature. Bon, bah, c'est naturel. On aime ce qu'on aime, on n'aime pas ce qu'on n'aime pas.
Mais non,
on
le goût des sciences, ça s'apprend.
Ça s'apprend, mais comme le goût de tout le reste. Mmh. Là aussi, on a, c'est l'idée que ce qu'on aime, on a appris à l'aimer d'une façon ou d'une autre, en famille, à l'école, avec nos interactions, avec notre entourage. Donc oui, le goût, comme le dégoût des sciences, ça s'apprend petit à petit. Ça peut s'apprendre très vite et ça peut s'apprendre très jeune. Donc on peut avoir l'impression que c'est naturel parce qu'à 4-5 ans, on a déjà des préférences. Mais 4-5 ans, c'est déjà long et on a déjà appris à aimer ou à détester, par exemple, les maths.
Et il y a une notion très importante, c'est la prophétie auto-réalisatrice. La façon dont le nul en maths, par exemple, que je suis, s'est conformé au discours que j'ai entendu au sujet de ma nullité. Grosso modo, c'est ça. Hein.
Exactement. C'est cette idée que on devient ce que les autres pensent que nous sommes et ce qu'on se met à penser qu'on est. Donc, si on nous dit tu es bon ou tu n'es pas bon en maths, on se dit ah bah je suis bonne ou je ne suis pas bonne en maths, et on finit par s'y conformer. En fait, la prophétie se réalise se réalise d'elle-même.
Moi, j'ai une anecdote intéressante à ce sujet. Quand j'étais petite, j'avais un grand front et mon papa m'a dit que j'avais une bosse des maths, c'était évident, et je m'y suis conformée.
Exactement. Parlez-nous, un bel exemple. Parlez-nous de la menace du stéréotype en science, qui est très intéressant. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, cette expérience du dessin. On a demandé à des élèves de 6e et de 5e de reproduire un dessin très compliqué. Les filles réussissent mieux quand on leur dit que c'est un test de dessin, et elles réussissent moins bien quand on leur explique qu'il s'agit d'un test de géométrie. C'est ça, le grosso modo, l'illustration du stéréotype, la menace du stéréotype en science.
Alors ça illustre bien la présentation de la tâche. Ouais. La même tâche, présentée différemment, on va pas avoir les mêmes résultats des élèves, parce que voilà, si on leur dit que c'est des maths, les filles vont se dire, tiens, j'ai l'habitude d'être moins bonne en maths, donc en fait, c'est tout simplement, je me concentre moins, je m'inquiète, tout le temps que je passe à m'inquiéter, bah, je le passe pas à me concentrer sur ce qu'on me demande de faire. La menace du stéréotype, c'est très lié, c'est un tout petit peu différent. C'est l'idée que si on demande aux gens de faire quelque chose et qu'en même temps, on active un stéréotype.
Voilà, c'est ça.
Par exemple, on leur dit, voilà, un test de maths. Attention, ce test est difficile. Les filles l'ont moins bien réussi que les garçons la dernière fois. Bah, ça va avoir des effets. Et ça va faire en sorte que les filles vont de fait moins bien réussir.
Et oui, les filles confrontées à ces exercices présentés comme scientifiques ont l'impression d'être en difficulté. Elles se disent, je ne vais pas y arriver. Ou de toute façon, les femmes sont moins bonnes pour se repérer dans l'espace ou sont moins bonnes en géométrie.
La bonne nouvelle, c'est que l'inverse marche aussi. Mmh. C'est-à-dire que si on présente des tâches en prenant soin avant de souligner qu'il n'y a pas, par exemple, d'écart entre filles et garçons. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui est très amusant. C'est des expériences que font mes collègues en psychologie sociale. Faire le même test. Et d'un côté, on dit, alors là, dans les résultats précédents, il n'y a aucune différence filles-garçons. Et de l'autre côté, on le dit pas. Eh bien, ça, encore une fois, ça se réalise, quoi. Enfin, les résultats se rapprochent quand on a pris soin de signaler que là, tout le monde pouvait réussir de la même façon.
Allez, il est temps de retrouver la chronique Ma vie de parent de Marie Perarnaud.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas?
Salut!
Merde!
Marie Perarnaud, cette semaine, vous avez très envie de faire une petite analogie entre les mathématiques et la vie de parents.
Oui, alors je tenais d'abord à vous remercier, mesdames, aujourd'hui, d'avoir mis en mots l'inéluctable glissement des filles du scientifique vers le littéraire, parce qu'elles étaient, comme moi, comme vous, allées nulles en maths, ou juste parce qu'elles ne pensaient pas être faites pour ça. Alors, s'il ne fallait retenir qu'une seule chose de votre longue et passionnante enquête, c'est que rien n'est inné, que ne n'est pas fort en maths, mais qu'on le devient, ou qu'on peut en tout cas le devenir. Et ça, on peut le dire, ça peut s'appliquer à beaucoup de choses de ce qu'on entreprend dans la vie. Le curling, le tango, la pêche à la truite et probablement l'aquaponie.
Vous allez donc nous parler d'aquaponie, c'est ça?
Non, alors j'ai quand même regardé un petit peu ce qui se passait ce matin. J'ai vu que la chronique s'intitulait « Vie de parent », ça tombe bien parce que je suis moi-même 4 fois parent. Alors je vais vous parler de ce que je connais et je vais reprendre votre réflexion à mon compte, Clémence, en disant que contrairement à ce que beaucoup de monde semble penser, on ne n'est pas non plus parent, mais on le devient. Alors ce qui nous semble évident à tous ce matin concernant tous les apprentissages dont les mathématiques, n'est manifestement pas évident pour cet apprentissage-là, qui est pourtant celui qui me semble l'un des plus complexes, le devenir parent, l'un des plus engageants, parce qu'il s'agit tout de même, je le rappelle, d'élever des êtres humains afin qu'ils soient des adultes heureux et épanouis, un petit peu comme nous ce matin.
Alors vous voulez dire que, Marie, qu'on doit apprendre à devenir parent?
Eh oui, Alors Alice, ça ne vous viendrait pas à l'idée de vous jeter sur une piste noire
non.
sans avoir appris à skier? Bon, vous êtes très joueur, peut-être que vous l'auriez tenté. Mais enfin, lorsque l'enfant paraît, on nous demande de savoir faire avant même d'avoir appris. À peine notre bébé arrivé, à peine posé sur notre ventre, on nous demande d'être un parent, d'être... Ah non, pardon. On nous demande d'être un bon parent, on nous demande même d'être un parent parfait.
Alors c'est quoi justement un parent parfait?
Ah bah alors moi je sais pas du tout. Donc je vais pas vous donner de conseils, mais en tout cas le monde entier le sait hein, et se demande pourquoi vous, manifestement, vous ne l'êtes pas. Il faudrait donc, sans avoir appris ni même pratiqué, être un parent parfait. Pas de cours magistral, pas de TP, pas d'aide personnalisée, juste vous, parent autodidacte. Apprenez donc sur le tas. Alors je sens qu'autour de moi, tout le monde se demande mais quelles sont les compétences requises, Marie, pour être un parent parfait? Très bien, je vais vous citer quelques extraits du référentiel de compétences que vous allez voir, plutôt exigeant quand même. Alors est-ce que vous validez ces items chez vous? Donc le parent doit être capable de changer une couche dans un TGV. Alors je ne sais pas si vous avez déjà été dans les toilettes d'un TGV.
Oui.
Vous validez, très bien. Le parent comprend avec rapidité les raisons qui poussent son enfant à ne pas dormir, à pleurer, à refuser les gnocchi poêlés qu'il adorait la semaine passée.
Ça je comprends, les gnocchi poêlés, je comprends.
Ouais, on n'est pas sûr quoi. Le parent réussit à remplir 18 fiches sanitaires et 37 fiches de renseignements pour l'école tout en lançant des lessives et en retrouvant un doudou perdu. Et
validé.
Le parent, hein, vous validez? Ouais. Bah ouais, vous êtes parfait, Ali. Attention, celle-ci, peut-être que le parent mobilise sa compétence de décodage en tout moment, en parlant à son ado, en comprenant les « Skip, vas-y, c'est fumé, je suis ban de Discord. » Et j'avoue...
Non, je valide pas.
Vous validez pas, c'est compliqué. Alors, même après 14 ans d'apprentissage de mon côté, je ne coche pas beaucoup de ces compétences parentales, par exemple. Celle qui s'intitule « Ma mère est hilarante en toutes circonstances », elle ne fonctionne pas lorsque je découvre les serviettes de bain trempées sur le sol de leur chambre. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça ce matin? Parce que certains parents, un petit peu comme les maths, se trouvent nuls, parce que certains parents se disent qu'ils ne sont pas faits pour ça et qu'ils n'y arriveront pas, alors que, manifestement, d'autres semblent y arriver de manière totalement naturelle. Parce qu'il y a trop de mères qui font des dépression du postpartum, entre 15 et 30% d'entre elles, selon un sondage réalisé en août 2021, et qu'il y a trop de pères qui sont à bout en burn-out. Parce que oui, dans la vie comme en classe, vous savez, quand on soit sa bonne tôle en maths, l'apprentissage est difficile. Le parent se dévalorise, il perd confiance en lui en se comparant aux autres, alors que peut-être il a même copié sur son voisin plus doué. Et il en arrive même parfois à un point où il regretterait presque d'avoir mis au monde des êtres qu'il se sent incapable de gérer. Alors mon propos ce matin est de dire, tout comme vous l'avez dit ce matin avant moi, que la parentalité nécessite un apprentissage et que l'apprentissage en classe comme dans la vie, ce sont des situations problèmes, ce sont des expériences, des hypothèses et ce sont surtout des erreurs, que parfois on y prend énormément de plaisir mais que parfois c'est laborieux, qu'il faut se faire confiance parce qu'à force d'expérience, à force d'essais, on finit par y arriver. Être parent, c'est un cheminement et si certains s'imaginent qu'il est linéaire, inné et plutôt naturel, je me plais moi à penser qu'il est parfois difficile et sinueux et qu'il faut à chaque étape se faire confiance, avancer ses enfants à ses côtés avec ce qu'on porte sur le dos, avec ce qu'on laisse derrière soi, mais aussi et surtout avec ce qu'on va rencontrer sur sa route.
Ma vie de parent de Marie Perarnaud. Et vous pouvez réécouter cette chronique sur l'appli France Inter. Votre mère vous a écouté là pour la première là.
Purée, ouais. Maman, si tu m'écoutes.
Allez, dans quelques instants, quelle solution pour rétablir l'égalité des sciences dans les matières scientifiques? Ce sera juste après avoir écouté, c'est dur à dire, écouté Kiki. C'est le titre de Julien Doré. Kiki.
De mon cœur tu tombes, dis-moi si tu sais te tenir à ton ombre, te tenir à leurs idées. C'est la peur qui gronde, dis-moi si c'est vrai qu'on a cassé le monde, qu'on a le dernier ticket. Mais toi t'auras ton style comme Kylian Mbappé. Tu seras libre si t'es pas fatigué. Tu verras pas de tigre ni de gens s'aimer. Ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé. De mon cœur tu plonges, dis-moi si tu sais compter les secondes sans tomber dans l'abîme. C'est la peur qui hurle, qu'il te faut susurrer pour te faire entendre, sans trop te faire remarquer. Mais toi t'auras ton style, comme Kylian Mbappé. Tient qu'à un fil qu'on a mal déroulé. Tu sais, c'est la honte qui me sert de papier. J'ai dessiné ta tombe avant même de te bercer. Et si ça résonne, et si demain te plaît, faudra que tu pardonnes. On était fatigués.
Julien Doré interpréter Kiki.
Grand bien vous fasse, Ali Rebéi, sur France Inter.
10h54, comment réduire les inégalités dans les matières scientifiques, c'est notre thème ce matin. Clémence Perronnet, je rappelle que vous êtes sociologue. Comment expliquer en quelques mots, je sais que c'est difficile, le dégoût des maths, entre guillemets, des classes populaires, des enfants des classes populaires, comment ça s'explique à grands traits?
On peut dire
le
que
dégoût,
ça...
c'est un peu fort,
oui,
mais...
on peut dire que ça vient du modèle, en fait. Ouais. Le modèle qu'on présente du scientifique parfait. Alors, ce scientifique, c'est un homme, donc ça explique les difficultés pour les filles de s'y identifier, mais ce scientifique, c'est aussi quelqu'un qui vient des élites. C'est quelqu'un qui, la plupart du temps, vient de la population majoritaire, c'est quelqu'un d'âgé, c'est quelqu'un qui est un génie. Et cette rhétorique du génie, et ça, on l'a beaucoup, l'idée qu'il faut être génial pour faire des sciences... ça décourage beaucoup les jeunes qui viennent des milieux modestes, parce que eux viennent d'un environnement où le génie, c'est pas si courant que ça. Et dans les établissements REP et REP+, par exemple, quand on écoute les enfants parler, ils ont très vite acquis cette représentation que eux ne sont pas les plus forts, ne sont pas les élites, ne sont pas les génies. Ils le disent avec des mots qui sont terribles, ils disent qu'ils sont nuls, ils disent qu'ils sont dans des collèges nuls, des collèges de nuls, que personne parmi eux ne va réussir à faire quelque chose. Et les sciences, c'est tellement élitiste et tellement génial que ça te paraît inaccessible.
Comment agir concrètement, en quelques mots, pour l'égalité dans les matières scientifiques ?
Il y a déjà l'idée de changer ce modèle, changer cette figure du scientifique idéal qui est toujours le même, qu'on voit à la télé, dans les dessins animés, dans les films, dans les manuels, qu'on voit partout, et déconnecter la pratique des sciences, le fait de devenir mathématicien, mathématicienne ou ingénieur, de cette figure-là. Donc la culture, les loisirs peuvent beaucoup pour ça, pour nous proposer plein de figures alternatives de gens un peu normaux.
Tiens, j'aimerais qu'on fasse un rapide pas de côté et qu'on termine de façon ludique avec vous, Denis Van Verbeek. Vous réalisez la web-série d'animation Voyage au pays des maths, actuellement disponible sur arte.tv. C'est une manière d'améliorer sa culture générale scientifique.
Alors oui, moi j'ai l'impression que en fait il y a un peu une sorte de malentendu sur les maths, avec vraiment l'idée que les maths ne concernent que le chiffre, que le quantitatif, que la rationalité économique, des choses terribles. Alors qu'en fait les maths sont quand même une activité qui est avant tout créative, où on invente des choses, des concepts, et où en fait moi j'ai l'impression que les maths sont plus près de la philosophie qu'elles ne le sont de la comptabilité. Et c'est un petit peu ça, moi, oui, que j'ai voulu raconter, faire passer dans cette série, donc qui est disponible sur le web d'Arte.
Ouais, l'idée c'est de rendre accessibles de grands concepts mathématiques en les ancrant dans le réel, hein.
Alors, en les ancrant aussi dans le réel, certes, mais aussi, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, de raconter les maths à travers leurs applications. Et moi, ce que j'ai voulu faire aussi, c'est un petit peu de les ancrer plutôt aussi dans l'histoire des idées. C'est-à-dire qu'on a un clivage très très fort en France en particulier entre les études littéraires et les études scientifiques. Et ce qu'on a voulu montrer dans la série, c'est qu'en fait, les maths font partie de l'histoire des idées, font partie de la culture, qu'on peut tout à fait s'intéresser à ce domaine-là sans être un mathématicien, sans être un génie, effectivement, et qu'il y a différentes façons d'aborder ce domaine-là, pas seulement en démontrant des équations pas à pas comme on le fait dans le monde scolaire, mais que c'est aussi un monde qui appartient à la culture, qu'on peut aussi regarder un petit peu de l'extérieur, comme on s'intéresse à l'histoire de l'art, à l'histoire de la littérature, on peut s'intéresser à celle des mathématiques, parce que c'est quand même des concepts qui sont fondamentaux dans notre vision du monde.
Et qu'on aime les maths ou pas, on peut regarder avec profit votre web-série Voyage au pays des maths, actuellement disponible sur arte.tv. C'est la Baruc, c'est vous qui avez le mot de la fin en quelques secondes. On a eu le plaisir de vous avoir aujourd'hui. Un mot pour terminer, un mot de conclusion. On arrive au terme de cette émission.
Oui, alors, un mot. Au CP, tous les enfants adorent avoir un rapport au nombre, l'écriture, à trouver qu'un nombre est rigolo aussi. Il s'écrit avec un 3 qui vaut 30 et un 3 qui vaut 3. Émerveillé de voir que si on laisse tomber 3 billets, mais pas forcément en ligne droite, que c'est une particularité qu'il faut essayer de comprendre, c'est quoi une ligne droite. Je veux dire, il y a les merveilles mathématiques sont immédiatement possible à faire passer pour un enfant qui est curieux avant tout.
Merci beaucoup, c'est la Baruc.
Très, très, très vigilant, c'est que le sens ne disparaisse pas au fur et à mesure qu'on avance. Mmh. Parce que c'est ça qui se passe. C'est qu'on retrouve des élèves qui ont abandonné le sens ou qui ont pensé qu'il n'était pas à leur portée. Or, justement, comme le dit Clémence Perronnet, avec tout le travail qu'il y a à faire dans la compréhension des phénomènes d'exclusion, la formation de toutes les parties prenantes, je lis ça dans sa conclusion, l'action sur les représentations, eh bien, il y a la reconstruction des savoirs à faire. C'est un travail considérable.
Travail considérable, Stella Baruc. Merci beaucoup d'être intervenue. Merci Laure Cornu. Merci Clémence Perronnet. La bosse des maths n'existe pas, c'est publié chez Autrement. Demain, on s'intéresse au cerveau des enfants et des adultes surdoués.